Bonjour, ben c'est François Damiens. Vous écoutez Pop Pop Pop. Du moins, j'espère. Pop Pop Pop, c'est parti. Allez, feu vert. À bientôt.
Pop-opienne, pop-opien et tous les autres aussi, bonjour. Nous allons parler de science aujourd'hui et le hasard veut que ce soit le jour où les frères Bogdanov fêtent leur anniversaire qui tombe le même jour puisqu'ils sont jumeaux monozygotes, même s'il est vrai qu'Igor zygote nettement plus que Grishka. Mais ce n'est pas avec mes deux confrères à géométrie variable que nous allons nous entretenir aujourd'hui, mais avec une autre légende de la science télévisuelle. Un homme dont toutes les pièces détachées sont garanties d'origine. Un homme qui a su initier toute une génération au mystère de la science, un peu comme Stéphane Bern l'a fait, avec ceux des têtes couronnées et pas seulement par les dentistes. Cet homme, c'est Jamie. Et c'est un peu l'ancêtre de Harry Potter, même si son émission cultissime avait pour titre « C'est pas sorcier ». Oui, grâce à lui, tout est devenu lumineux pour nos chères têtes blondes, aussi bien la vie des mollusques que celle des requins ou des avions de chasse, sans parler de sujets plus complexes encore, comme la raison de la présence de la main de ma sœur dans la culotte du zouave, ou encore, pour en revenir à eux, la raison pour laquelle les frères Bogdanov ont un double menton. Oui, Jamie a été un passeur magique, et aujourd'hui, c'est à son tour de passer dans Pop Pop Pop.
Pop Pop Pop. Antoine de Paule.
Et bonjour Jamie.
Bonjour Antoine.
On est d'accord, hein, c'est contractuel, on peut pas démarrer une émission sans le camion.
Ça ne s'est jamais fait.
Ça ne s'est jamais fait et ça ne se fera jamais, nous vivants. À mes côtés, celle qui, tout comme vous, sillonne la roue de la pop culture dans le même camion que moi, Charline Roux. Bonjour Marcel. Pardon, Charline.
Salut Fred.
Bonjour Charline.
Bonjour.
Avec vous, Jamie, nous allons donc parler de l'émission mythique C'est pas sorcier et de science en général et de votre livre, votre Tour de France des curiosités naturelles et scientifiques. Diriez-vous que Pop 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 est une curiosité naturelle et scientifique?
Ah, totalement. Voilà, qu'il faut explorer. Je suis très content d'être ici pour voir de l'intérieur ce qui s'y passe.
Ce qui s'y passe. On ferait un petit bilan à la fin. Hein. Au menu également de Pop Pop Pop, une autre émission mythique qui a marqué, elle, trois générations. Eh oui, la saga Il était une fois avec Il était une fois l'homme qui est de retour et on en parle tout à l'heure avec Hélène Barrier qui, m'a-t-on dit, arrive chargée. Mais avant ça, Jamie, ici, il existe une question encore plus embarrassante que ce moment d'intimité à l'antenne entre vous et Fred.
Il est superbe ton spermatozoïde, Jamie.
Et cette question, c'est... Pour vous, c'est quoi la pop culture, Jamie? Ah, attendez, parce que sachez, mon cher Jamie, que j'ai eu des réponses camionneuses. Chauffe Marcel Lassive, c'est pas sorcieresque, et même, Jamie irait bien. Et parmi mes préférés, il y a celle de la romancière Anne-Laure Kerr. Écoutez-la.
Voilà, je suis née en 1963, à une époque où les femmes se libéraient. Et donc, ma mère préférait faire des courses dans les grands magasins plutôt que s'occuper de moi. Et on me collait devant la babysitter absolue de l'époque, à savoir la télévision. Donc pour moi, la pop culture, c'est ceux qui ont eu la télé comme babysitter.
Ceux qui ont eu la télé comme babysitter. Donc c'est vous la pop culture?
Eh ben oui,
un petit peu. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que c'est pour vous?
Alors moi, je suis né un an après votre invité. Je suis né en 1964. Et effectivement, la pop culture, elle est directement liée à la télévision. À l'évocation de ce mot pop culture, je pense instantanément à la pub. Et je revois ces pubs des années 80, je pense à la pub Eram, pub Evian, pub Perrier de Gainsbourg. Pour moi, c'est vraiment l'archétype de la pop culture, celle que j'ai vécue quand on est ado et qu'on a envie de rêver, de tout claquer. Et ces pubs étaient, je trouve, très... révélatrice de l'esprit que l'on avait à cette époque, un petit peu déjanté, où tout était permis, où même la pub était artistique.
Et ludique.
Et ludique. Ouais. Voilà, ça c'est la première image. La deuxième...
Il y en a combien?
Il y en a que deux. Elle est rattachée un petit peu à ce que je fais aujourd'hui. Pour moi, c'est vous l'avez évoqué au début de l'émission, ce sont les frères Bogdanov et Temps X.
Ouais. Voilà. Et les combinaisons spatiales. Bien, la pop, la culture et la pop culture, on va en parler dans la suite de Pop Pop Pop, juste après All the Good Girls Go to Hell. C'est un morceau de Billie Eilish. Allez, chauffe Marcel.
Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My love so far is lonely. Look at you needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team.
La pop de Billie Eilish qui a versé l'été d'Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef qui ingurgitait la nuit une quantité de liquide égale à celle sur laquelle il paddelait pendant la journée. Et le titre, c'était « All the good girls go to hell ». Vous écoutez Pop à Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie du Casimir de la science, enfin... si j'en crois son épouse, mais qui est ce gros truc orange à lunettes de geek qui me regarde chelou et qui va m'expliquer la recette du gloobie-boulga ? Réponse avec son pop portrait. Alors votre pop portrait, Jamy, c'est votre portrait bien sûr, mais... Et c'est signé Charline...
Aujourd'hui, un invité qu'on a longtemps interpellé sans décliner son patronyme, une familiarité qu'on s'est autorisée au motif qu'il était là tous les dimanches matins, chez nous, pendant qu'on trempait nos tartines dans du café, hein, vêtus de nos pigeons pilou. Certes, il n'a jamais amené les croissants, mais n'empêche que pendant 20 saisons, on a pu partager cet instant privilégié qu'était C'est pas sorcier avec cet homme qui avait la réponse à toutes les questions. Un interlocuteur rassurant qui ne changeait pas alors que nous, l'Alka-Seltzer et l'aspirine avaient fini par remplacer les tartoches et le lait. Du coup, nos questions ont changé, un peu comme la télé, l'esprit sorcier a mué en incroyable expériences en mission Millennium pour finir dans le monde de Jamy, une constante cependant, on peut toujours compter sur lui. Par exemple, quand mon enfant maintenant me demande « C'est quoi cette bouteille de lait ?» Je peux toujours lui répondre « Demande à Jamy !» Aujourd'hui, donc dans cette émission, un homme de transmission, ce qui est quand même pas mal pour faire de la radio.
Casimir de la science. Vous avez déjà songé à vous installer à Lille, aux enfants ?
Pas mal.
Oh ! Non, mais c'est que ça vient d'où ce Casimir de la science ?
Non, ça c'est mon épouse un jour qui a eu cette réflexion en disant mais finalement parce que on était dans la rue et il y a des enfants qui venaient me voir qui me posaient plein de questions. Ça arrive toujours et elle a eu cette excellente définition, tu es un peu le Casimir de la science. Alors je sais pas comment ça s'est retrouvé dans la presse à droite à gauche, mais toujours est-il que voilà, ce sont des mots de mon épouse Manuela.
C'est parfois lourd à porter ça, des enfants qui viennent vous voir dans la rue pour vous demander questions.
Je ne les prends pas sur mon dos.
Très bien, alors Casimir, je vous emmène dans le pays joyeux de la pop culture, c'est l'heure de votre pop-list. Nous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, votre choix s'est porté sur « Qui se souvient des hommes » de Jean Raspail. C'est un roman publié en 1986 et ayant obtenu le prix Chateaubriand la même année et le prix du Livre Inter l'année suivante. Charline, Jean Raspail, ce n'est donc pas seulement ce boulevard qui part de Saint-Germain pour monter jusqu'à l'Enfer Rouge.
Oh, vous êtes tellement monoprisme depuis que vous avez téléchargé Waze. Jean Raspail retrace l'épopée des Alakalouf, des Indiens du Cap Horn, leur confrontation au fil des années avec les Magellan, les Drake, les Byron et quelques populations quelque peu hostiles.
Mm-hmm. Jamie, auriez-vous la gentillesse de nous en lire quelques lignes ?
Avec grand plaisir. Dieu voit l'île du haut du ciel, sait que le moment approche. Son regard transperce les nuées, puis les nuages noirs et furieux poussés par un vent de tempête, les voiles opaques de neige et de grêle qui ensevelissent tout ce canton de la terre. Il est 3 heures de l'après-midi. La nuit va tomber. Un petit canot se glisse avec peine au plus profond d'un long canal, aux parois verticales et glacées. À son bord, un homme seul, presque nu. Le visage ruisselant, courbé sur le banc de nage, les poings aux avirons. Il n'y a pas une autre âme vivante à des dizaines de lieues à la ronde.
Extrait de « Qui se souvient des hommes » de Jean Raspail. Maintenant, Jamy, expliquez-moi pourquoi ce livre-là vous touche à ce point.
Alors, c'est un livre que j'ai lu, j'avais une vingtaine d'années, et c'est un voyage. C'est un voyage parce que, vous l'avez dit, Jean Raspail, il raconte l'histoire de ce peuple qui est parti du Caucase et qui a franchi le détroit de Béring, puis descendu le long du continent américain, qui ne s'appelait pas bien sûr ainsi à l'époque. Et donc, c'est ce peuple qui va occuper, coloniser l'Amérique. Et petit à petit, on va le voir s'égrener au fil du voyage. C'est-à-dire que les uns vont s'installer, vont chasser les autres. Et petit à petit, il y a un groupe qui va être chassé, repoussé jusqu'aux confins du monde, jusqu'aux confins de la Patagonie. Donc ce voyage est bouleversant, d'une part, dans les rapports qui existent entre ces hommes. Et puis, cette volonté absolue de ce peuple qui au péril de ses membres, va continuer à descendre le long de ce continent pour finalement aller s'installer et vivre dans le milieu, l'un des milieux les plus hostiles de la Terre, où ils ne vont pouvoir vivre que nu, même dans le froid, en ne se couvrant que de graisse d'animal. Je me souviens d'un passage où justement les Européens essaient de s'installer à cet endroit, mais rien ne pousse, on ne peut pas faire sécher le linge, les habits, le cuir se délitent, on ne peut vivre que le corps recouvert de graisse de phoque.
J'en reviens, j'y étais en vacances. C'est tout ça servi par une écriture
magistrale.
Voilà, celle de Jean Raspail. Très bien, vous nous avez donné envie. Merci, Jamy.
Bon.
Oui, très bien. Qui se souvient des hommes. Pour le film, vous choisissez un monstre de la pop culture qui fait son entrée dans la pop list avec ce jingle.
Ouah, putain, truc de ouf !
Eh oui, truc de ouf, car ce film, c'est Le silence des agneaux, réalisé par Jonathan Demme en 1991. Charline, rappelez-nous pourquoi les agneaux la mettent brutalement en sourdine. Serait-ce à l'approche des fêtes de Pâques ?
Je ne le crois pas, Antoine. Clarice Starling est agent au FBI et elle traque un dénommé Bill qui fait rien qu'à se faire des robes dans des dames. Elle est donc obligée de converser avec Hannibal Lecter, un type qui aime manger les foies de ses amis avec des fèves et du Chianti.
Busy hunting that new one, Buffalo Bill. What a naughty boy he is. Do you know why he's called Buffalo Bill?
This one likes to skin his humps. Most serial killers keep some sort of trophies from their victims.
I didn't.
No. No, you ate yours.
Le silence des agneaux. Jamy, c'est votre côté psychopathe caché derrière ces petites lunettes rondes qui se manifeste là ?
Ah, ce film est génial. Mm-hmm. Ce film est génial parce que cette confrontation entre Anthony Hopkins et Jodie Foster, le psychopathe d'une intelligence extraordinaire, il a un regard dans ce film qui est foudroyant, il fait peur. Et il y a un truc qui est extraordinaire, c'est que je crois que... D'abord, c'est un film qui a raflé, je crois, 5 ou 6 Oscars. Mm-hmm. Et Et Hopkins, Anthony Hopkins, je crois qu'il reste à l'écran 15-20 minutes. Et en 15-20 minutes, eh bien, il va réussir à décrocher l'Oscar. Ouais, c'est un truc fabuleux.
Mais il est présent, voilà. Il est présent pendant tout le film.
Oui, oui, mais évidemment. Mais on ne le voit pendant ce quart d'heure. Et malgré tout, il est présent pendant tout le film.
Bon, vous aimez des films qui foutent les jetons, d'accord. Jamil, passons à votre série. Et pour la série, vous avez choisi True Detective, que nous pourrions traduire par Les Enquêteurs du Trou. Et c'est une série créée par Nick Pizzolatto et réalisée par Kari Fukunaga. Pour la première saison diffusée en 2014, je crois, sur Canal+. Charline, ils sont très changeants, ces détectives, non ?
Effectivement, Antoine. 3 saisons, une constante, la traque de type redoutable avec option tueur en série, pistée en saison 1 par le duo McConaughey et Harrelson, en saison 2 par Colin Farrell et Vince Vaughn, et en saison 3 par Mahershala Ali.
Alors pourquoi plus True Detective que Casimir, à qui je rappelle, vous devez tout, Jamy.
Petit tropisme tueur en série, hein, quand même.
Oui, un petit
rajouter,
peu.
Mais...
un petit peu. Alors là, aller chercher le lien avec Casimir, pas simple. Hein. On m'avait dit que les questions pouvaient être un peu tordues. Bon, peut-être que je pourrais y revenir à la fin de l'émission. Alors, avec une petite préférence quand même pour la saison 1.
Ouais,
voilà.
Bien sûr.
Je crois que je suis pas le seul. Ouais, ouais. Voilà, mais c'est un truc. En fait, moi, j'adore les atmosphères originales. Mm-hmm. Ce qui est super dans cette série, c'est vraiment. C'est l'ambiance. On est dans une Amérique qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc c'est l'Amérique de Sanctuaire un petit peu. C'est une Amérique
un peu poisseuse, un peu glauque.
Ouais. Voilà. Donc c'est un truc spécifique. Mm-hmm. Voilà. Et j'aime bien ces ambiances là.
Vous aimez
voilà.
bien les destinations étranges. Hein.
Voilà.
Oui. Okay. Oui. J'ai compris.
Ça vous fait un point commun.
Enfin pourquoi Enfin pour la musique. Pour la musique, eh bien vous avez choisi cette chanson cultissime. It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Version originale de Alléluia par Leonard Cohen, que nous pourrions traduire par Rendez louange à Dieu, c'était en 84 sur l'album Various Positions. C'est mieux que la version de Jeff Buckley ?
Oui, je préfère.
Ouais.
Je préfère. Bon, d'abord, c'est la voix de Leonard Cohen. Mm-hmm. C'est bien sûr une musique. Mais vous avez dit Rendons grâce à Dieu. Je crois que ce qui est génial dans cette chanson, c'est que il me semble que Leonard Cohen emprunte au vocabulaire biblique pour parler de l'amour qu'il a pour une femme. Mmh. Et ça, c'est génial. Mmh. Voilà, c'est-à-dire qu'il va mettre en opposition deux mondes. Hein, il le fait avec beaucoup de subtilité. Et c'est ce qu'il faut lire à travers cette chanson.
Ça vous arrive aussi, à vous, dans votre vie au quotidien ?
Hein ? Je ne peux pas vous le dire.
Ce garçon est pudique, ça me plaît. Je résume, qui se souvient des hommes, Le silence des agneaux, True Detective et Alléluia, je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture.
Super.
Et ça nous donne ça.
Do you know why he's called Buffalo Bill?
It goes like this, the fourth, the fifth.
Il n'y a pas une autre âme vivante à des dizaines de lieues à la ronde.
Vous l'avez remarqué, j'ai mis... Oui. Un truc s'est glissé dans ce mixage.
Vous ne respectez rien.
Oui, je ne respecte rien. C'est la version au cas où de Alléluia. Écoutez-la. Écoutez-la isolée. « elle vous plaît aussi ou
moins? J'adore.
Je la veux. Bon, très bien. Donc on la garde
c'est dans sur la chaîne Chitty Flotte, si vous la voulez.
Ouais. Ok, bien. Jamy, le temps d'enfiler nos blouses blanches et d'astiquer nos tubes à essai pour parler de science, mais de façon pop, dans la suite de Pop Pop Pop. Et on écoute en attendant Oxmo Puccino et son Social Club.
Yeah. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une club. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une club. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Banana, cheese, blueberry. Elle m'embrasse et je loupe mes rimes. Objectif à peine dévoilé, space cookie par chef étoilé. Les ladies nous remercient. Arrivé jeudi, parti mardi. Je rallume le spaghetti si samedi. Appelle tes amis si c'est samedi. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une club. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club.
Dispensaire à LA.
Petit club à Barcelone.
Coffee shop à Dame.
Je suis brisé comme porte.
Un nouveau style de locomotive.
Ah, protège-toi à nos confrères. Ah,
parce qu'il y aura des pogos d'office. Je donnerai aucun de mes bocaux aux flics.
Avant l'égalité, on a légalisé. Garantie, l'amour, la quantité, la qualité.
La tête dans les nuages et les avions. Ça fait 10 ans que je suis en élévation. Les barreaux qui nous enferment, faudrait que nous les effacions. Avec Marie-Jeanne, j'ai préparé l'évasion.
Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une club. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une club. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club.
Y'a pas écrit entrée gratuite. Reste comme sur ta tweet. Train que ça parle et que ça tweet. Billet dans un sac d'or. Concu dans la salle d'or. Je célèbre avec un salto. Désolé si j'ai l'air désagréable. C'est parce que j'suis encore clean. J'suis trop chaud. Allumer la clim. J'suis sapé comme si j'avais un Clio. J'me sens lourd comme une enclume. J'suis membre du club. Elle colle comme la glu.
Grande bouffée, air pur, les clés sont perdues, où est la voiture?
Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une club. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club.
Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une club. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club.
France Inter, Pop Pop Pop, Antoine Decaune.
Nous sommes toujours avec celui qui a fait encore plus de choses incroyables dans un camion que Jean-Claude Van Damme, Jamy Gourmaud. C'est un bon pitch Wikipédia, non?
Oui, c'est pas mal. Il y a très longtemps que je ne l'ai pas lu. Donc je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans.
Enfin, préciser pour les choses incroyables que c'est quand même tout public, ça peut être trompeur. Sinon.
Oui, d'accord. Si France 3 vous avait alloué le budget pour un deuxième camion, vous auriez tenté un grand écart façon JCVD?
Je ne suis pas assez souple.
Vous non plus. Jamy, vous êtes journaliste, documentaliste, vulgarisateur, écrivain, conteur et ex-routier. Vous préférez lequel de ces qualificatifs?
J'aime bien quand vous dites routier parce que quand mon fils était petit, un jour, il fallait organiser pour la fête de l'école et je me retrouve à monter des stands comme ça. Et puis, j'étais avec deux garçons bien costauds et ils me parlaient de camions, de Scania, de Volvo, de machin. Je comprenais pas vraiment. Bon, on monte les stands, machin et tout. Et puis, la journée se passe et je rencontre l'institutrice de mon fils. Et je ne sais c'était qui les gens. Elle me dit, ouais, c'est des parents d'élèves. Et elle me dit, bah si, parce que votre fils dit à tout le monde que vous travaillez dans un camion. Donc voilà, je t'aime.
Et vulgarisateur, c'est un mot qui vous convient?
Oui, passeur. J'aime bien le terme de passeur. Ouais. Parce que j'estime être entre ceux qui ont la connaissance et ceux qui ne l'ont pas, mais qui veulent l'acquérir. Donc moi, je suis une sorte de trait d'union.
Vous semblez aussi d'un naturel extrêmement curieux. Vous dites d'ailleurs que la science démarre par l'observation.
Oui.
Est-ce à dire que vous vous posez constamment des questions? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui vous interroge là maintenant tout de suite?
Alors, je me pose pas en permanence des questions, mais il faut être, je pense, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire qu'il faut se laisser émerveiller. Il y a un concept qui me plaît bien, qui est de se dire je me laisse étonner, émerveiller, et puis ça va nourrir l'envie de comprendre et d'apprendre. Mmh. Voilà, c'est ce qui me motive.
Avant de dire un mot de votre Tour de France des curiosités naturelles et scientifiques édité chez Stock, revenons sur l'aventure C'est pas sorcier, c'est 20 ans de votre vie, 570 numéros mythiques, yes. Des milliers de litres de gasoil pour faire chauffer le camion de Marcel. Et attendez, c'est pas un peu contradictoire de parler de planète quand on se déplace en 33 tonnes, hein? Et votre bilan carbone, répondez, les Français veulent savoir, Jamy.
Nous étions en 1994, voilà, et ça change tout. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que avec Fred, donc quand nous avons créé cette émission, on ignorait complètement que ça durerait 20 ans. Et on a vu comme ça, au fil des années, l'évolution des sujets que nous traitions. Et c'est vrai que la question environnementale dans les années 90, en 1994, c'était pas forcément une priorité. Alors que plus le temps passait et plus on est allé vers la fin de C'est pas sorcier, plus nous avons été amenés, à chaque fois que nous traitions un sujet, d'évoquer ces questions d'environnement.
Comment est-ce qu'on trouve le bon mot, le bon ton pour interroger et puis pour expliquer aux profanes, aux plus jeunes générations? C'est-à-dire, est-ce qu'on se place à hauteur de môme ou au contraire, surtout pas?
Surtout pas. On se place à hauteur de celui qui ne sait pas. Mais on se place vraiment. C'est-à-dire que moi, il m'est arrivé de reprendre l'écriture d'une explication, je vous mens pas, 10, 15, 20 fois, parce que en la relisant intérieurement et en me mettant à la place de celui qui se trouvait devant le petit écran, je me disais non, ça passe pas, ça va pas. Il n'y a pas de lien entre ces deux phrases, il n'y a pas de lien entre ce que Fred a dit à l'extérieur et ce que je vais dire maintenant. Il faut absolument raccorder les morceaux pour que l'histoire, puisque finalement, qu'est-ce que nous faisions ? Nous racontions une histoire. L'objectif n'était pas de faire en sorte qu'il y ait une interrogation à la fin de l'émission. On s'en fichait qu'on ait retenu ou pas. L'important, c'était que le téléspectateur aille du début à la fin de l'histoire et qu'il comprenne tout du début à la fin. Qu'il retienne 1%, 2%, 10%, 50%, peu importe.
Libé disait de vous dans un portrait, il y a trois personnes qui peuvent s'extasier devant Jamy. Le premier qui est un enfant né entre 80 et 2000, qui a été biberonné à votre émission. Le second qui est le parent du premier, qui a souvent posé le dit enfant devant la télé. Et le troisième qui est un instituteur pour qui l'animateur a été un assistant bienvenu. Vous avez conscience d'avoir rendu pop Jean-Claude Durand et ses cours de dissection de grenouilles du lundi matin à 8h30?
Alors, ça c'est marrant parce que on me dit toujours « Ah, vous auriez fait un super prof ». Ben, c'est pas le même métier. Un enseignant, il a une autre vocation que la mienne. Et je parle de vocation, de choix au départ. Je ne sais pas du tout si j'aurais fait un bon prof. Ce n'est pas le choix que j'ai fait. Parce que ce n'est pas l'envie que j'avais. Un enseignant, il a une autre envie. Il a envie d'enseigner.
Et de passer, comme
moi,
je l'avais fait
oui,
aussi.
Oui, mais je ne le fais pas en enseignant, je le fais en racontant des histoires. Et il ne faut pas confondre les deux.
Mais vous êtes quand même un support éducatif aujourd'hui dans les classes, il faut le dire.
Mais vous
qui avez aimé l'école, vous avez déclaré il y a peu de temps que vous aviez aimé l'école primaire.
Oui, tout à fait.
C'était qui, vous, votre Jamy? Est-ce qu'il y avait une figure comme ça, de passeur, qui vous a donné envie, vous a rendu curieux?
Alors, je pense qu'on a tous des enseignants qu'on a aimés et des enseignants qu'on n'a pas aimés. Il se trouve que moi, j'ai plutôt tendance à consacrer du temps de mémoire, de la place de mémoire à ceux que j'ai aimés plutôt qu'à ceux que je n'ai pas aimés. Et effectivement, il y en a eu quelques-uns. J'ai eu un instituteur extraordinaire quand j'étais en CE2. Alors peut-être que moi je l'ai trouvé extraordinaire, que d'autres élèves ne l'ont pas trouvé extraordinaire, mais toujours est-il que lui, parce que sa classe était un capharnaüm, parce qu'il y avait des objets, des cailloux un peu partout, des récipients dans lesquels il y avait des serpents dans le formol, etc. Bon. Voilà, c'est sûrement quelqu'un qui m'a inspiré. Il nous faisait faire des expériences. Je me souviens, à l'automne, lors des premiers jours, il nous avait emmené. Je m'en souviens encore. C'était à peu près comme maintenant. On allait faire des promenades à l'époque dans la campagne, cueillir des noix, écraser des noix sur un buvard. C'était le meilleur moyen pour comprendre que certains fruits pouvaient produire de l'huile. Voilà, et ça reste indéfiniment. Voilà.
Un des indices qui indique qu'une émission est rentrée dans la pop culture, c'est quand Internet s'en empare pour la détourner. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du phénomène YouTube Poop, qui s'amuse à faire du mash-up d'émissions, comme C'est pas sorcier, par exemple.
Si.
Eh ben, ça donne ça.
Bon alors, tu t'en sors?
Bah non, pas vraiment.
Bon allez, laisse tomber, je vais t'équiper. Et je vais te montrer ce qu'il y a de mieux aujourd'hui pour surfer sur
les boules. J'ai une idée, je vais envoyer une photo de ma bite à Fred. Hey Fred, tu peux recevoir mon email?
Ah ben justement, je t'ai envoyé mes photos de sa bite, tu les as reçues?
On pourrait utiliser un PC pour offrir un cadeau à Marcel.
Excellente idée, Jamy.
Allez Marcel.
Nick.
Vous prenez ça comme un hommage?
Oui. Oui.
Non, mais celle-ci. Non, mais...
Moi aussi, j'ai le choix, parce que celle-ci est drôle. Il y a des trucs beaucoup moins drôles qui se font dans le genre. Voilà.
Bon. Mais c'est d'ailleurs pas votre seule incursion dans le monde de la pop culture, hein, parce que si mes souvenirs sont bons, vous avez eu une marionnette au guignol.
Yes.
Vous avez joué votre propre rôle dans un épisode de Bref, intitulé « Il y a des gens qui m'énervent ». Ce genre de panthéonisation pop, ça vous amuse ou c'est un peu aliénant parfois?
Non, ça m'amuse. Ouais. Ça m'amuse. Voilà, je le prends comme ça. C'est une chance. Voilà.
Alors, je parlais de votre livre il y a quelques instants. Quand l'insolite rencontre l'explication scientifique, ça donne cet ouvrage. Vous avez choisi des lieux en France dans lesquels un phénomène naturel s'est illustré de manière spectaculaire ou des endroits dans lesquels s'est déroulée une première mondiale.
Exactement.
Quel a été le plus fascinant?
De l'écrire. Mm-hmm. De l'écrire parce que quand on écrit... Moi, j'aime bien les images. Alors vous me dites, faut rester faire de la télévision. Non, je pense que créer des images, c'est plus intéressant en radio. D'ailleurs, j'ai commencé par la radio. Donc, avec la radio ou avec l'écrit. Parce que là, il faut entraîner son lecteur ou son auditeur, et on ne peut le faire qu'avec les mots. Il faut trouver les mots justes qui expriment une sensation. Et ce que j'ai fait dans ce bouquin, bien sûr, je voulais expliquer, mais je voulais surtout décrire les lieux qui ont été à l'origine d'une envie, en ce qui me concerne, de comprendre et d'expliquer. Mais il faut d'abord décrire ces lieux qui vous envoûtent et vous rentrez ensuite dans l'explication, dans la science.
Ça s'appelle le Tour de France des curiosités naturelles et scientifiques. C'est édité chez Stock.
Alors vous qui aimez vous poser des questions sur ce que vous croyez savoir, qu'est-ce que vous avez redécouvert en écrivant ce livre et sur quel sujet avez-vous réalisé qu'en fait vous étiez fourvoyé depuis le début?
Alors, j'ai découvert un truc très sympa. Dans le dernier chapitre, alors c'est le premier qui me vient à l'esprit, hein, mais il y en a plein d'autres, sur le pic du Midi de Bigorre, dans les Pyrénées, où est installé un observatoire depuis 1878. Enfin, il a été inauguré un peu plus tard, mais le premier coup de pioche, c'était 1878. Pourquoi on l'a installé aussi haut? Alors, on se dit, évidemment, on va se dégager des couches denses de l'atmosphère pour voir le ciel de manière plus claire, plus facilement. Alors, c'est une raison, mais il y a une autre raison. Il y a un observatoire à Paris. Alors on peut se dire, Paris, la pollution, etc. Mais l'observatoire de Paris, à la même époque, il est déplacé à Meudon. Et ça ne suffit pas encore, tout simplement parce que lorsque on installe un observatoire à Paris, je crois que c'est au XVIIe siècle, on l'installe dans une zone où il n'y a pas tellement d'habitants, elle est assez peu fréquentée. Mm-hmm. Et puis, les années passent, on vient s'installer autour de l'observatoire, on construit des rues pavées, et sur ces rues pavées circulent des carrosses. Et ces carrosses, les roues des carrosses font vibrer le pavé, la vibration se transmet au bâtiment et ça fait vibrer la lentille de la lunette, et les astronomes détestent que le monde vibre.
Et voilà pourquoi Bigorre est situé tout en haut.
Voilà.
Merci Jamy.
C'est une belle histoire.
Il y en a plein d'autres dans ce Tour de France des curiosités naturelles et scientifiques, votre ouvrage. Vous savez faire plein de choses, vous connaissez plein de choses, mais est-ce que vous savez faire ça? Il sait le faire. Merci, Jamy. C'est pour lancer les Pop News.
Coup d'envoi le 16 septembre du 8e Fifi Gros, soit le Festival international du film groslandais de Toulouse. Durant cette compétition, la France sera dignement représentée, entre autres par les films Braquet Poitiers de Claude Schmitt et Selfie, qui raconte, je cite, les destins comiques et sauvages d'Homo Numericus au bord de la crise de nerfs, avec Blanche Gardin, Sébastien Chassagne, Marc Fraise, Esteban ou encore Manu Payet. Remise des amphores, ce sont les prix locaux, le 22 septembre. Pour juger de la qualité des œuvres, un dictateur nommé Jean Dujardin, il n'y a pas de président de jury au Fifi Gros, pour assister aux festivités, rendez-vous rendez-vous sur www.fifigro.com.
Oubliez l'incroyable famille Kardashian et leur impudique show télé. Si vous voulez fréquenter une vraie star de très près, c'est sur une chaîne YouTube qu'il vous faut suivre. En l'occurrence, celle de Robbie Williams qui très régulièrement poste des séquences intitulées Vloggy Williams. Sa vie en tournée, les backstage, les coulisses de sa résidence à Las Vegas, son régime, ses états d'âme ou encore ses rencontres comme celle avec le magicien américain Justin Flom qui lui a fait bien comprendre qu'en tant que Britannique, il n'était pas en terrain conquis.
Can I tell you something? This is unique. So... We know you're not famous here, right? Okay. It's
thick. Si vous voulez voir Robbie Williams se faire rappeler qu'il n'est rien chez les Yankees, et bien c'est sur sa chaîne YouTube.
Sorti demain pour la toute première fois en vinyle d'un concert mythique Live and Loud qui s'est déroulé le 13 décembre 1993 à Seattle, un concert de Nirvana. Dévoilé sur la version deluxe de la réédition d'In Utero en 2013, ce live sort enfin en double vinyle 180 grammes. L'occasion d'y réentendre le groupe lors de son passage dans une non moins mythique émission d'une chaîne cryptée. Rape Me dans Nulle Part Ailleurs. Rappelez-moi d'ailleurs qui les annonçait sur scène.
Philippe Gildas.
Un type qui vous ressemblait étrangement. Live and Loud, ça sort demain en vinyle.
France Inter. Pop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
Robbie Williams.
Mais évidemment, merci Charline, bravo. Cette spéciale Science Pop continue et avant de fêter les 40 ans de la saga légendaire Il était une fois, on écoute Robbie Williams dont on vient de parler et qui donne de la voix sur cette reprise de Tears for Fears de Everybody Wants to Rule the World pour le producteur Trevor Horn.
Hands while the
Everybody Wants to Rule the World par Robbie Williams. C'est sur l'album Trevor Horn Reimagines the 80s. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie de Jamy et vient de nous rejoindre Hélène Barrier pour fêter un anniversaire. Oui, bonjour Hélène Barrier.
Bonjour, merci de me recevoir.
Mais je vous en prie, vous vous souvenez de ce générique mythique? Jamy,
évidemment.
Je vous pose pas la question.
Évidemment.
Hélène.
Évidemment. Voilà.
Bon, en fait, donc le 40e anniversaire de la série ludo-éducative pour enfants, Il était une fois l'homme, série animée qui a connu un carton mondial puisqu'elle a été diffusée dans 120 pays, y compris en Belgique, sous le titre Il était l'homme une fois. Une série créée par votre époux Albert Barrier.
Absolument. Alors,
à quelle occasion? Comment ça s'est enclenché toute cette histoire?
Oh, toute cette histoire, en fait, c'était pour la pop culture. Albert voulait faire circuler la culture gratuitement.
Ouais.
Pour les enfants, évidemment. Et donc, il a trouvé que faire quelque chose pour la télévision, c'était bien. Et il avait eu envie de raconter l'histoire de l'humanité, l'histoire des infiniment grands, l'histoire des infiniment petits. Et il a utilisé ce média comme un précurseur.
Et raconter l'histoire de l'humanité en dessin animé, en série, comme ça, c'était un moyen d'attirer les enfants de manière intelligente devant un poste de télé.
Et il voulait surtout pas que les enfants perdent leur temps devant la télévision. Donc, il leur a raconté des histoires, plein de gags. Et il a fait passer subrepticement beaucoup, beaucoup d'informations.
Parce qu'on parle d'une période où il n'était pas encore possible de binger, hein, faut le rappeler. C'était une pastille quotidienne relativement courte. 26 épisodes pour expliquer l'homme du Néandertal, l'âge des Vikings, le siècle des Lumières ou encore la Révolution française.
Louis XVI a dû reconnaître son impuissance à faire face à la crise économique qui sévit. Menacé de banqueroute, il a convoqué les États généraux pour le 5 mai 1789. Ce sont les premiers depuis 175 ans. Et de toute la France... Les délégués affluent vers la capitale.
Bonjour, maestro, ça va ?
Quelle était l'inspiration derrière Maestro, cette figure du vieux sage barbu, un poil narcoleptique, qui sert de fil conducteur et de narrateur à Elle était une fois l'homme ?
Oh, Albert disait que c'était son alter ego. Il lui faisait dire tout ce qu'il voulait à Maestro, et sortir tout ce qu'il voulait de sa barbe, et il a pu être assez insolent, finalement, avec Maestro.
Moi, j'ai un souvenir de gags récurrents où il se prenait les pieds dans la barbe.
Bah oui. Voilà. Et ça marche.
Ce qui
marche
à tous les coups.
Depuis 40 ans.
C'est ce qui
vous
prend
au nez, j'ai dit.
Au nez ou au menton. Au nez, mon général. Au doublage, Roger Carrel et Patrick Préjean. Au dessin, Jean Barbeau. Alors, le choix de Jean Barbeau pour le dessin, n'a, on l'imagine, rien d'anodin, alors qu'on entre à cette époque-là de plein pied dans l'ère de l'animation japonaise.
Oui, alors...
C'était un contre-choix.
C'était un contre-choix, quoique Albert avait fait le tour du monde quand même pour trouver son dessinateur.
Qui était à Paris.
Et qu'il était à Tours.
À Tours, pardon.
Et il sortait de l'école, voilà. Et après avoir cherché partout, un jour, il a eu ce petit Jean qui a pu poser sa candidature. Et Albert a trouvé toute sa fraîcheur et ils sont partis ensemble pour cette série, quoi.
Il aurait dû faire le tour de Tours au lieu du
tour de
Tours,
ça aurait été plus rapide.
Bien sûr. Non, mais c'était aussi une prise de position, c'était une manière d'affirmer une identité presque européenne face aux Japonais, ou ça n'allait pas jusque-là?
Il était très content de faire une série française.
Oui.
Et moi aussi, j'en suis très contente et je suis ravie que ce soit devenu un produit du patrimoine de l'audiovisuel français, finalement.
Même question à tous les deux. Des émissions comme C'est pas sorcier ou Il était une fois ont-elles des héritières, des héritiers aujourd'hui?
Ah, moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'héritiers.
Qui voilà. veut des noms, alors
les héritiers, les héritiers aujourd'hui sont sur le net. Mais nous-mêmes, nous avons été les héritiers de nos illustres prédécesseurs. C'est pas sorcier n'aurait jamais vu le jour s'il n'y avait pas eu Jérôme Bonaldi et s'il n'y avait pas eu Michel Chevalet et Laurent Broumède. Voilà, donc... Ça continue. Nous ne sommes pas des inventeurs, nous sommes des héritiers. Et nos héritiers sont aujourd'hui sur le net, je pense.
Hélène, vous êtes d'accord avec ça?
Ah, mais complètement, complètement. Et on reçoit en plus tous les jours des témoignages de scientifiques, de médecins, d'historiens qui sont devenus, qui ont découvert leur vocation grâce aux séries.
Je vous ai interrompu, Jamy, vous alliez dire aujourd'hui... Vous alliez citer des noms.
Je pensais à Dr Nozman, Max Bird, des gens comme ça. Y pensait Bruce Bernman. Voilà, ce sont des YouTubers qui font un excellent travail.
Voilà. Oui, mais on a eu Link the Sun aussi, pareil. Ils s'inspirent.
Mais comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui encore, des émissions comme C'est pas sorcier ou une série comme Il était une fois continuent, en fait, à travers les générations, d'être diffusées, rediffusées, transmises de parents à enfants? C'est qu'il y a quand même quelque chose qu'on ne trouve pas dans les nouveautés, peut-être.
Si, si, elles y sont, mais elles y sont différemment. Mmh. Et c'est ce qui est bien, d'ailleurs, avec le Night, c'est que ça permet à Il était une fois la vie, à C'est pas sorcier, de continuer à vivre et de vivre en parallèle. Ça multiplie les supports, c'est ce qui est bien. Mais je crois que si ça existe toujours, et vous avez dit un mot très important tout à l'heure, on raconte des histoires. C'est-à-dire que notre job... ça a été de raconter des histoires, des histoires dont le terrain était, le terreau était la connaissance, la science.
Hélène.
Et là, et nous, ce sont les parents aujourd'hui qui en toute confiance mettent leurs enfants, même les plus petits, devant Il était une fois ou C'est pas sorcier, certainement. Et là, ils sont tranquilles et ils savent qu'ils ne vont pas perdre leur temps devant la télévision.
Mais la question,
et c'est magique.
La question que posait Charline, c'est aussi comment est-ce que ça survit autant, ces séries? Comment est-ce que ça continue à parler de la même manière on en est à la troisième génération.
Ça survit parce qu'on y croit très, 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 très fort. Que d'abord l'auteur Albert Barrier était un génie, donc il a fait quelque chose de génial. Et ensuite les films ont un petit peu vieilli, mais l'image a vieilli.
Ouais.
Et il suffisait de restaurer, d'y croire très très fort, de savoir, d'être convaincu que c'était des super produits. Pour les rebooster, et j'ai une équipe autour de moi qui croit dur comme fer, et je crois que c'est la conviction qui fait marcher les choses.
Un mot du dernier épisode d'Il était une fois l'homme, un épisode intitulé Il était une fois la Terre, dans lequel il est question des conséquences de la pollution, de l'accumulation des déchets toxiques, de l'épuisement des ressources naturelles, de l'augmentation de la population humaine, un épisode qui date de 1979. Qu'est-ce que ça vous inspire de le revoir aujourd'hui, à part une terreur?
Alors,
certaine.
Ça m'inspire que, encore une fois, Albert était super visionnaire, qu'il a fait une œuvre qui est complètement bouclée, parce que dans cet épisode, dernier épisode d'Il était une fois l'homme, il a évoqué tous les sujets qu'il a développés en 2009, c'est-à-dire 30 ans plus tard, en une seule série, Il était une fois notre Terre. Et ça, c'était vraiment la logique de son œuvre, quoi.
Alors, on notera pour les fans et pour les autres aussi que la sortie du DVD, c'est chez Sony, Il était une fois l'homme, et que Gulli consacrera une nuit spéciale à la série lors des Journées du patrimoine le 21 septembre.
Absolument.
Journées du patrimoine, rien que ça.
Rien que ça.
Et on vous en fait aussi. Bien, nous approchons de la fin de cette émission et j'ai plus de trappe pour descendre à la cave cette année, mais en revanche, j'ai mon ascenseur maintenant. Allez, je l'appelle. Alors, où va-t-il m'emmener aujourd'hui cet ascenseur? Tiens, appuyons sur ce bouton. Oula, j'espère qu'il ne va pas tomber en panne. Oula. Oh non, c'est dur quand même là. Non, je vais jamais tenir moi. Non, je peux. Bon, je vais finir à pied. Non, c'est pas humain d'infliger ça dans un ascenseur. Mais ça répond pas. Non, laissez-moi sortir. Non, laissez-moi sortir. Oh, laissez-moi sortir. Envoyez la musique, là, maintenant. Non, je peux pas, Jana, je peux pas.
S'il existe encore aujourd'hui, il doit vivre aux États-Unis. Il doit jouer de la guitare et couché sur les bancs des gares. Il doit fumer de la marijuana avec un regard bleu qui plane. Jésus, Jésus-Christ est un hippie. Poncho mexicain sur le dos, autour de son front un bandeau. Il est barbu et chevelu, il s'est battu à Chicago. Il aime les filles au sein nu, il est né à San Francisco. Oui, Jésus, Jésus-Christ,
Jésus qui est un hippie. Dans les parcs et le long des docks, il vit dans un sac de couchage. On n'arrête pas de l'arrêter pour délit de vagabondage. Au grand festival de Woodstock, c'est lui qui soigne les blessés. Oui, Jésus, Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ est un hippie. Son père s'appelait Joe, je crois. Sa mère s'appelait Mary, je crois. Il a 33 ans, je crois. Le FBI lui court après, je crois. Et s'ils arrivent à le coincer, ils mettront notre ami en croix. Oh Jésus, Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ est un hippie. Oui Jésus, oui Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ est un hippie. Oui Jésus, oui Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ est un hippie.
Johnny Hallyday, Jésus-Christ est un hippie, avec ses paroles immortelles de Philippe Labrault. C'est dans Pop 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 sur France Inter. C'est un morceau de 1970. Jamie, Hélène Barillet, on approche de la fin de l'émission. C'est l'heure du moment magique, l'heure de réécouter le meilleur ou le pire moment de cette émission. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux?
Prêts.
Oui. C'est parti. C'est pas possible. Alléluia, Alléluia, extrait de la chaîne Chitty Flute, interprété au kazoo et à la flûte. Ça vous a plu?
Énormément.
Satisfait ou remboursé?
Oh, j'ai adoré. Pour une prochaine série, il était une fois, ce sera parfait.
Une fois la musique,
on prend les
droits. Il était une fois la musique, pour écœurer les enfants. Bien, merci Jamy. Je rappelle que votre Tour de France des curiosités naturelles et scientifiques s'est édité chez Stock et que le 23 octobre sortira toujours chez Stock, tu l'as dit Jamy, des bandes dessinées, enfin des bandes dessinées, un livre illustré, pour initier les enfants au mystère scientifique. Merci Hélène Barillet. Je rappelle que le DVD d'Il était une fois l'homme est disponible et le 21 septembre prochain, rendez-vous sur Guili Guili pour une nuit spéciale consacrée à la série. Merci à l'équipe de Pop Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique, Anne-Laure Cochet, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Kélion Yousfi.
Non, qu'est-ce non, que je raconte? Raphaël
Harry. Raphaël Harry, mais oui. Demain dans Pop Pop Pop, les youtubeurs Jérôme Niel et Ludovic viendront nous présenter le film La Grande Classe. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yeuve à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos réparation d'ascenseur sur YouTube.
Ah, c'est la pompe à air comprimée qui déconne.
Mais oui, c'est-à-dire abonnez-vous à notre podcast. Et suivez-nous sur les internets, comme disent les milléniaux, le 3615, pop 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 sur Instagram et Twitter.